Fabrice Tarine, bonjour.
Bonjour.
On se souvient du discours de François Hollande à Dakar, il y a 2 ans. Le temps de la France-Afrique est révolu. Vous, vous dites, le système a évolué, mais n'a pas disparu.
Les discours sur la fin de la France-Afrique, on en a entendu beaucoup. Le prédécesseur de François Hollande avait lui-même annoncé une rupture qui n'a pas eu lieu. Donc ce n'est pas sur ces discours que l'on attendait François Hollande, mais bien sur ses actes. Et force est de constater, à mi-mandat, que François Hollande s'est inscrit dans le fauteuil de ses prédécesseurs et a fait de la politique française en Afrique un pilier qui repose toujours sur les mêmes composantes, l'ingérence militaire, le soutien à des dictateurs et la promotion tous azimuts des intérêts économiques français. Donc on est encore à l'âge d'or de la France-Afrique.
Mais vous écrivez dans votre livre « La corruption financière des élites françaises est moins évidente aujourd'hui ».
Bon, il y a quand même, on va dire, une surveillance à la fois médiatique, juridique, de ces flux. Le temps des valises de billets a sûrement été remplacé par celui des paradis fiscaux. L'affaire Cahuzac nous montre qu'il est facile de cacher des flux financiers. Mais la France-Afrique, ce n'est pas que l'affairisme. C'est tout ce qui contribue, en fait, à priver un certain nombre d'États africains de légitimité et de souveraineté. Et à cet égard, intéressons-nous à ces piliers forts de la France-Afrique que sont la présence militaire française en Afrique, qui retrouve un nouvel élan depuis François Hollande. Et puis, surtout, à cette politique de la stabilité, dite de la stabilité, qui contribue à ce que la France ait des relations privilégiées avec des chefs d'État qui sont arrivés par la force, qui sont maintenus par la force, parfois depuis 30 ans. Et donc, je laisse comparer, on a vu comment ça s'est terminé. Idriss Déby là depuis 1990, Paul Biya depuis 82, Sassou Nguesso par intermittence depuis 1979. Un grand nombre de ces chefs d'État veulent se représenter ou continuent de trafiquer les constitutions. Que fait la France? Quel message fort la France adresse-t-elle à ces chefs d'État qu'elle considère toujours comme ses amis? Et c'est sur ça que nous attendons des choses différentes.
Alors, ce qui vous choque le plus, en effet, c'est qu'après son arrivée au pouvoir, le socialiste François Hollande n'est pas rompu avec un certain nombre de chefs d'État africains. Mais l'Élysée répond, la diplomatie a ses règles et lors des tête-à-tête, on fait passer des messages.
Le problème, c'est que ces messages, quels sont-ils? C'est nous nous félicitons de la bonne relation entre la France et le Gabon, entre la France et le Burkina Faso. Certains points ont été abordés et à la fin, on dit les droits de l'homme. Voilà. Et c'est ça les messages, c'est ça qui ressort des communiqués finaux. Donc ce que font les chefs d'État, c'est qu'ils ont toujours leurs petites équipes de télé, etc., qui vont passer au journal télévisé national la poignée de main sur le perron de l'Élysée. Et à côté de ça, les opposants qui attendent des messages ne connaissent pas le contenu de ces messages et ils ne peuvent pas s'en servir face à leur chef d'État. Donc cette politique-là n'a pas d'effet sur le rapport de force, démocratie, dictature.
Le 7 octobre dernier, 3 semaines avant sa chute, le Burkinabé Blaise Compaoré a reçu une lettre de François Hollande l'invitant à ne pas modifier sa constitution. Et le 30 octobre, au plus fort des manifestations à Ouagadougou, cette lettre a fuité dans Jeune Afrique. Est-ce que ce n'était pas une lettre prémonitoire?
Je pense que pour un chef d'État au pouvoir depuis 1987, qui s'est rendu célèbre par ses actions en matière de droits de l'homme et par ces élections truquées, une simple lettre à quelques semaines d'une modification constitutionnelle, c'est quand même le minimum que la France pouvait faire. Et je pense que ça illustre surtout la faiblesse du discours de la France pour promouvoir plus de démocratie dans un certain nombre de régimes. Fabius, en 2013, disait encore que les relations étaient excellentes avec le Burkina. Donc c'est pas une simple lettre pour promettre un poste à la francophonie qui marque vraiment un changement de paradigme politique.
Oui, mais c'est mieux que rien quand même. On a l'impression que vous n'êtes jamais content.
Je pense que nous sommes pas contents dans la mesure où cette lettre, elle est clairement pas à la hauteur des enjeux qui se posent ailleurs aussi sur le continent. On sait que Idriss Déby veut se représenter en 2016, on sait qu'un certain nombre d'autres chefs d'État voulaient modifier la constitution pour se présenter ad vitam aeternam. On peut estimer que Hollande n'était pas en capacité de proposer la tête de la francophonie à tous ses chefs d'État, et que finalement, à travers ses courriers, c'était le minimum syndical qui se contentait de faire.
Il y a aussi un communiqué du Parti Socialiste qui appelle au respect des constitutions. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la France?
Bon, après le Burkina, il ne pourra plus se passer ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire que maintenant les Français vont se sentir obligés d'être un petit peu plus regardants sur ces choses-là. On va voir ce qui va se passer après le Burkina, est-ce que d'autres pays vont se saisir de ça, est-ce qu'il va y avoir vraiment une lame de fond citoyenne qui va vraiment réussir à bouleverser cela, et puis soyons clairs, c'est les populations elles-mêmes qui vont se libérer de ces régimes de la France-Afrique.
Êtes-vous d'accord d'une certaine façon avec la thèse d'Antoine Glaser dans son livre Africa-France, selon laquelle désormais c'est les chefs d'État africains qui mènent le jeu de la France-Afrique?
Je pense que cette thèse, elle est anecdotique. On voit très bien sur la convocation à l'Élysée d'un sommet pour la paix et la sécurité en Afrique, que les piliers de la France-Afrique, le franc CFA et surtout, parlons-en, du repositionnement militaire sont là. Et la France-Afrique, c'est cela.
Mais ce repositionnement militaire de la France, est-ce qu'il n'était pas nécessaire après la tentative de prise de Bamako par les djihadistes?
Au niveau de l'association survie, depuis très longtemps que nous étudions les interventions militaires françaises en Afrique, nous avons tiré le constat que ces interventions n'ont jamais contribué à la stabilité et n'ont jamais contribué à améliorer la situation des populations. Et donc nous réclamons la fermeture des bases militaires. Et sur le Mali, nous avons été clairs. Nous pensions que la France était peut-être bien placée stratégiquement et militairement pour intervenir, mais qu'elle était la moins légitime pour le faire, étant donné son passif dans la région, ses liens avec certains certains chefs d'État voisins, ses intérêts économiques, notamment au Niger, et son rôle très ambigu avec le MNLA. Mais ce qui nous a particulièrement inquiétés, c'est la suite de cette intervention Serval, c'est ce processus de relégitimation de l'ingérence militaire française. L'armée a réussi un coup de force, une opération de com', et aujourd'hui, on a quand même des bases militaires françaises qui sont préservées, et même de nouvelles bases qui s'ouvrent. On a ce dispositif Barkhane qui s'installe durablement, et on est en train de repositionner, de relégitimer ces interventions militaires qui appartenaient un peu au passé. Aujourd'hui, on est dans une phase qui nous inquiète particulièrement, parce que la contrepartie de cette phase, c'est que la France a besoin de s'appuyer sur des chefs d'État dans les pays en question, et au besoin de les relégitimer à l'échelle internationale, comme ça a été le cas avec le Tchad d'Idriss Déby, qui va faire l'objet d'une visite ministérielle de haut niveau, puisque Manuel Valls s'y rend ce week-end.
Fabrice Tarit, merci.